chaque samedi à midi du citoyen au politique 30 minutes pour sonder l'époque au gré des récits de notre temps.
La Cour a rendu un arrêt que tout le monde attendait. Certaines communautés religieuses estimaient que l'imposition d'un étourdissement préalable, réversible, avant un abattage dans le cadre d'un rite religieux, était une atteinte à leur liberté religieuse. La Cour européenne de justice, il y a 2 ans, avait déjà dit non, ce n'est pas le cas, c'est une mesure proportionnée qui n'empêche pas le rite religieux. Ils avaient maintenant introduit un recours à la Cour européenne des droits de l'homme qui vient de confirmer que ce n'est pas une atteinte aux libertés religieuses. Il est tout à fait possible de respecter le rite religieux, qui est celui de sacrifier un mouton, un animal, mais de le rendre inconscient au moment où on le sacrifie, ce qui lui fait qu'il n'a pas de souffrance inutile.
Coup de tonnerre le 13 février dernier, la Cour européenne des droits de l'homme a tranché, les régions flamandes et wallonnes en Belgique sont bien fondées à interdire l'abattage rituel d'animaux s'ils n'ont pas été étourdis au préalable. La CEDH, qui se prononçait pour la première fois sur cette question, n'y voit pas de violation de la liberté de religion et estime que les requérants n'ont pas été victimes de discrimination. Une victoire pour Bernard Clairfait, maire écolo de Schaerbeek et ministre bruxellois du bien-être animal ici au micro de nos confrères de RTL Belgique. Une victoire qui a provoqué l'ire des autorités religieuses et des juifs et musulmans pratiquants. Si elle est confirmée par la grande chambre de la CEDH, cette évolution de la jurisprudence fera date dans notre conception de la condition animale. L'arrêt fait référence à la notion de morale publique qui, selon les magistrats, est évolutive. Et par essence, la Convention européenne des droits de l'homme est aussi un instrument vivant qui peut s'interpréter à la lumière des conceptions contemporaines. Justement, que s'est-il donc passé chez nos contemporains? Comment l'animal a-t-il pu le passer de statut de bien meuble à celui de quasi-enfant dans certains foyers? À tel point qu'on ne compte plus les études et sondages sur le pet parenting. En quasi-français, la pet parentalité. Et comme tout bon parent, y compris d'un animal domestique, cela signifie partager ses nuits, son lit, offrir des cadeaux à Noël ou aux anniversaires. Cela peut vous sembler anecdotique, voire risible, dans un monde où le racisme, le sexisme, les discriminations, les inégalités sont abyssales. Pourtant, du végétarisme au véganisme, de la souffrance animale aux droits des vivants non humains, ces enjeux nous fracturent. Alors, l'animalité serait-il le nouveau paradigme de notre humanité ? Bonjour Éjane Sénac.
Bonjour.
Vous êtes directrice de recherche au CNRS, directrice du département de sciences politiques de Sciences Po. Vous publiez « Comme si nous étions des animaux » dans la collection Libelle des éditions du Seuil. C'est en librairie depuis hier. Et vous avez notamment signé « Radical et fluide, les mobilisations contemporaines ». C'était aux presses de Sciences Po en 2021. Alors, à quelques jours de la fin du ramadan, cette question de la probité de la viande halal fait largement débat. Ou cachère. Qu'avez-vous à dire sur cet arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme qui, justement, bouleverse le rapport à la condition animale et à l'abattage rituel ?
Alors, je pense qu'il est toujours intéressant d'analyser les arrêts, les jurisprudences, comme étant un miroir de l'évolution de notre rapport à la norme, au sens de ce qu'on considère comme juste. Et dans les motivations de cet arrêt, c'est ce que les magistrats expliquent d'ailleurs, ils disent bien que c'est une manière pour eux de dire en fait une évolution dans les États membres qui existent déjà au niveau européen, sur ce que c'est que une société démocratique aujourd'hui, et comment est-ce que le droit, c'est toujours un arbitrage, une question de proportionnalité, en particulier entre différents principes. Et on voit bien que là, il souligne le fait que c'est pas le premier arrêt, d'ailleurs, qui met en balance des droits fondamentaux, dont ici la liberté de penser, la liberté religieuse et de manifester et de vivre sa religion. Et la protection du bien-être animal. Il cite d'ailleurs un arrêt sur la chasse à courre, mais qui était ancien, qui était de 2009, où ils ont donné raison au Royaume-Uni contre des sociétés de chasse à courre. Donc, le fait que nous habitions une planète où il n'y a pas que des animaux humains, mais aussi des animaux non humains, et que nous devons vivre ensemble en tenant compte des intérêts réciproques, c'est quelque chose qui est intéressant, puisque là c'est éminemment politique, puisque c'est mis vraiment comme au cœur même de ce qu'on est en tant que société démocratique européenne.
Mais le rabbin Menachem Margolin, président de l'association juive européenne qui est basée à Bruxelles, dit « La conclusion implicite du verdict déformé est que les droits de ces citoyens à la liberté de religion et de culte sont moins importants que ceux des animaux. » Est-ce qu'on peut entendre cet argument qui nous parle d'inversion de la hiérarchie des valeurs ?
Alors, Je pense que si on remet les choses un peu à plat, d'un côté, il s'agit de reconnaître le droit à ne pas souffrir pour être mis à mort. Et de l'autre côté, puisqu'ils sont quand même mis à mort, ces animaux, et de l'autre côté, c'est reconnaître une manière de percevoir son droit à manifester sa religion, qui n'est pas remis en cause, et dans les motivations de l'arrêt, on le dit bien, puisqu'il y a une mise en place d'un étourdissement réversible. Donc là, c'est une question de proportionnalité. Je trouve que ce rabbin manque de mesure et de proportionnalité, puisque d'un côté, il s'agit d'avoir le droit de mourir sans souffrir, et de l'autre côté, d'avoir le droit d'avoir un sacrifice avec une petite modification pour tenir compte justement de la souffrance que l'on inflige à ces animaux. Et c'est vrai que les écritures religieuses, d'ailleurs, sont comme toute interprétation. Là, on voit l'interprétation du droit, mais les écritures religieuses, il me semble, peuvent aussi être le lieu où on peut voir une cohérence à prendre en compte. La non-souffrance des êtres sensibles.
Eh bien justement, Rejane Sénac, je vous propose d'écouter Shems Eddine Hafiz, le recteur de la Mosquée de Paris. Alors la Mosquée de Paris, c'est un des organismes certificateurs de la viande halal en France. Et ils sont saisis depuis des années de cette question de la souffrance animale face à des pratiquants qui veulent consommer de plus en plus de viande certifiée. Et là-dedans, la Mosquée de Paris, entre autres, organisme certificateur, tente de tracer un chemin délicat. On écoute.
En tant que musulman, je sais que c'est important aujourd'hui de prendre en considération le bien-être animal. Et pour les musulmans, pour l'islam, l'animal a une conscience. Il est doté d'une conscience, il est doté d'une âme. Et les animaux, de manière générale, dans le Coran, sont ceux qui sont le plus proches de l'être humain. Il y a un certain nombre de versets coraniques qui rappellent que les animaux constituent des communautés comme les hommes. Le mot même sacrifice n'est pas un acte banal. Oui, les musulmans doivent se nourrir d'animaux, mais il faut qu'ils prennent des précautions importantes. Parce que, si vous voulez, le mot « sacrifice », en islam, il a un sens théologique. Et donc, on doit tenir compte de ce bien-être animal, même lorsque l'acte du sacrificateur est réalisé, le sacrificateur doit prendre toutes les dispositions pour éviter que l'animal souffre. Il faut vraiment abréger la vie de l'animal, qu'il ne soit pas stressé pendant la période d'abattage, ou en tout cas au minimum. Et c'est notre rôle à nous, en tant que Mosquée de Paris, de rappeler ces grands principes, et en fait de dire que le bien-être animal ne s'oppose pas du tout à notre religion, parce que nous constatons malheureusement que du fait des notions de productivité dans des abattoirs, il y a effectivement, et ça je ne peux pas le nier, ça serait contraire à mon éthique de recteur de dire que les bêtes ne souffrent pas. Mais c'est une raison économique et je crois qu'il faut réussir à créer cette adéquation entre le bien-être animal, le rite musulman et de l'autre côté les soucis économiques. Alors vous avez posé une question sur notre façon de nous alimenter. Je crois qu'aujourd'hui, en 2024, il est temps que nous nous penchions sur ces questions. Alors, dans l'islam, au moment de la révélation coranique, il a toujours été recommandé aux musulmans d'être frugal. Et donc, oui, nous avons besoin aujourd'hui de changer nos méthodes de consommation. Moi, je pense qu'aujourd'hui, nous devons consommer local. Nous avons déjà, nous, des difficultés au moment de la fête de l'Aïd al-Adha. Nous importons malheureusement les moutons pour pouvoir pratiquer notre rite parce qu'il n'y a pas de production suffisante. Mais nous essayons malgré tout d'inciter les producteurs, les élevages, etc., de pouvoir, dans ces moments propices pour la religion musulmane, d'avoir la possibilité de consommer localement. Et c'est ça, comme je vous l'ai dit, en tant que recteur de la Grande Mosquée de Paris, Moi, j'essaye de vraiment mettre en pratique cette équation qui est de respecter au maximum notre rite. Et je suis extrêmement rigoureux là-dessus. Mais en même temps, tenir compte aujourd'hui du bien-être animal qui n'est pas en contradiction avec le livre sacré de l'islam.
Alors, à l'instar du recteur Shemseddine Hafiz, l'encyclique Laudato Si, écrite par le pape François en 2015, va dans le même sens. Alors, même si la question des animaux n'y est pas centrale, mais le pape voit une sorte de famille universelle, une communion sublime qui nous pousse à un respect sacré, tendre et humble entre les humains et les animaux. Réjeanne Sénac, finalement, le recteur le dit, c'est pas la religion le sujet, ce serait plutôt le productivisme, l'appât du gain. Donc, il faudrait revenir à ces textes qui sanctifient le sacrifice et la frugalité. Donc, les religions seraient les premiers alliés de la cause animale.
Alors, si religion est entendue comme ce qui fait lien, c'est vrai qu'on n'est pas dans une logique de contradiction, comme le disait le rabbin, mais plus dans une logique d'harmonie, hein, de comment faire ensemble en tenant compte des intérêts de chacun.
Dit le recteur.
Voilà, ce que dit le recteur. Je trouve que c'est intéressant, justement, de ne pas poser les questions en termes de contradiction, mais en termes vraiment donc de cohabitation et d'arbitrage. Hein. Alors, c'est beaucoup plus complexe, hein, c'est beaucoup moins confortable. On voit bien qu'on est bousculé, qu'on est dérangé. La domination, c'est assez simple, en fait. L'exploitation, l'appropriation, c'est des rapports de force, c'est des certitudes, c'est que dans un sens. Alors que là...
Ce qu'il nous dit, hein, en fait, voilà. Hein, voilà, c'est le rapport au productivisme et donc, du coup, cette vision de l'animal comme ressource
comme
va
chose.
À l'encontre de la frugalité qui serait donc posée dans les textes, qui est problématique.
La dimension processuelle dont vous avez parlé, hein, du politique, de la justice, c'est toujours un mouvement compliqué. Alors que si on est dans une logique, en effet, où le seul sujet, c'est de faire un profit le plus important possible dans une logique de croissance illimitée, on voit bien que là, on se pose beaucoup moins de questions et en même temps, on est sans doute dans une société qui s'auto-détruit à la fois dans ses rapports aux autres et dans la logique qui est celle d'un néolibéralisme intégral. Juste peut-être là-dessus, je trouve que ce que ça pose comme question pour toute forme de communauté et de vivre ensemble, c'est qui on intègre. Qui on intègre en termes de communauté, d'empathie, mais plus largement aussi ou plus politiquement de sujets de droit. Donc c'est très récent en France hein, que les animaux non humains soient reconnus comme des êtres sensibles, doués de sensibilité.
Ce qui avait fait débat, hein. Voilà. Effectivement, et donc, avril 2014, la reconnaissance du caractère
dans le code
sensible
civil
de l'animal.
Alors c'était déjà dans le code rural, dans L214, article L214, c'est pour ça que l'association a pris cet intitulé-là. Mais on voit bien que ça articule le qui du politique et du droit, et pas seulement de la morale. Il y a la morale, mais comment on articule morale, politique et droit? Le quoi, c'est quoi faire communauté, et donc le comment. Et là, à travers l'arrêt, on voit bien qu'on attrape le qui et le quoi à travers le comment. Et ça, c'est très intéressant, à travers une mise en œuvre, un arbitrage, une combinaison, un équilibre. Donc moi, je trouve que c'est l'interprétation qu'on a du sens du vivre ensemble et de la justice, qui a longtemps été anthropocentrée de manière très violente et unilatérale, avec en effet une alliance avec le néolibéralisme et le capitalisme, parce que voilà, l'exploitation est assez massive et sans questionnement, et voir comment, à travers des brèches, on se pose de plus en plus de questions. Et on voit bien dans l'arrêt qu'ils disent qu'en effet, il y a un mouvement, hein, qui est un mouvement qui amène des résistances, comme tout mouvement, mais qui interroge notre rapport au juste, à l'émancipation.
Mais vous parlez de zoopolitique et de zoo-inclusivité. En quoi cet arrêt et les débats qu'il crée, et la preuve en est cet échange avec le recteur, avec vous aujourd'hui, en quoi ça crée une forme de zoo-inclusivité dans notre droit?
Alors, on voit bien, il y a cette idée qu'on intègre, on inclut dans nos prises de décision publiques, mais aussi personnelles. La zoo-inclusivité, elle peut être aussi dans nos arbitrages personnels. On inclut l'intérêt. Le bien-être des animaux non humains. Et on voit d'ailleurs que là, on est dans quelque chose qu'on appelle welfariste. Là, on n'en est qu'au bien-être. Et si on va jusqu'au bout, on peut être abolitionniste, c'est-à-dire qu'on se pose la question de la légitimité de tuer des animaux ou de se servir des animaux pour notre propre intérêt. Mais déjà, la zoo-inclusivité, c'est qu'on intègre ce sujet dans nos arbitrages personnels, collectifs, politiques. La zoopolitique, c'est un peu au-dessus, mais elle implique la zoo-inclusivité. C'est l'idée qu'on fait politique, on fait communauté, pas seulement entre humains et pour les intérêts des humains, mais aussi en incluant les animaux non humains et qu'ils font partie donc de la communauté politique et juridique.
France Culture, sous les radars, Nora Hammadi.
Depuis 5h du matin, je suis devant l'abattoir de Jean Cafort. Le but de l'opération, donc avec L214, c'était de constater des infractions liées au transport d'animaux vivants.
Je m'appelle Thomas Saïdi, j'ai 28 ans et je suis enquêteur pour l'association L214.
Je m'appelle Bérénice, je suis enquêtrice à L214. Nous avons suivi des veaux nourrissons d'Irlande aux Pays-Bas pendant 2 jours et demi. Je vous raconte.
Association L214 et le député qui doit accéder au lieu.
Attendez.
On a quand même extrait en 2 ans et demi 700 individus des abattoirs.
On y va ?
Si demain il faut aller à 200 pour aller extraire même une poule, une camarade poule d'un abattoir, ben il faut y aller. Il ne faut pas hésiter une seule seconde. Voilà, ça c'est du concret à mes yeux.
Pour que l'agroalimentaire cesse de traiter vaches, poules et cochons comme une matière première.
C'est juste une question empathique. On reconnaît en l'animal quelque chose de proche et de plus en plus proche au fur et à mesure que les années passent.
Depuis le début de l'année, une 20aine de boucheries ont été vandalisées par des militants véganes.
Putain, là, de véganes de merde. Qu'est-ce qu'ils vous font chier, les véganes, là ? Hein ? Oui, oui, vous pouvez me filmer, oui.
Et on va rentrer dans les bâtiments. C'est un cochon qui a été ce qu'on appelle claqué. C'est-à-dire qu'il était jugé trop faible par l'éleveur. Et du coup, il l'a simplement fracassé au sol.
C'est plus une action, quoi. C'est, voilà, on casse.
Là, je pense qu'arrive un moment, faut dire stop.
Alors, faut-il vraiment s'inquiéter de la violence des militants véganes ?
Direct action is taking action for animals now.
Et voilà pour ce florilège réalisé par June Loper. Merci June d'avoir regardé toutes ces vidéos pour nous ce matin. Des vidéos de L214, des vidéos de 269 Life, Libération Animale. Réjeanne Sénac, vous signez Comme si nous étions des animaux dans la collection Libelle des éditions du Seuil. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette question animale? On voit à quel point elle hystérise, elle polarise notre débat public. On n'a pas mis les débats autour de la viande et du barbecue, mais on aurait pu. Pourquoi c'est une question si identitaire ?
Alors, je pense surtout que c'est une question qui nous met mal à l'aise, parce qu'on veut pas voir, on veut pas voir nos dissonances. C'est très inconfortable. À la fois, on a des peluches, des histoires contées, nos amis les bêtes, et en même temps,
on a des animaux domestiques qui dorment avec nous, ce pet parenting dont je parlais tout à l'heure.
Et en même temps, on porte sur eux leur peau, on les découpe en morceaux, on les fait souffrir sans se poser trop de questions. Et en tout cas, quand on nous donne à voir ça, et dans les mobilisations contre les injustices de manière générale, il y a cette question de la mise en visibilité, de ce qui dérange, de ce qui nous met en incohérence. On l'a vu avec MeToo, on le voit avec beaucoup de questions, en particulier ce qui a rapport avec la violence. Et donc ça nous met en position de nous sentir en contradiction avec les principes que l'on est censé porter, aussi bien collectivement à travers une république, pays des droits de l'homme, de la liberté, de l'égalité, voilà, de la solidarité, ou nous dans nos vies personnelles. Donc ce qu'il y a d'intéressant, là on le voit, on l'a entendu, sur qui est violent. Qui est violent réellement ? Est-ce que c'est les répertoires d'action qui font de la désobéissance civile non violente la plupart du temps ? C'est-à-dire que, en effet, ils rentrent par effraction dans les abattoirs ou dans les élevages intensifs.
On a vu des bouchers se faire agresser. Hein,
mais ça a été très minoritaire. Et d'ailleurs, il y a eu des recours juridiques. Mais c'est vraiment à la marge. Hein. La plupart du temps, c'est des performances ou des désobéissances civiles non violentes couplées avec des plaidoyers. Il y a beaucoup de réappropriation du droit de la part de ces activistes. Donc, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'elle est où la violence, là ? Elle est dans le fait de nous montrer que nous sommes violents et que nous validons un système violent et dans nos vies personnelles et collectives. Donc moi, je trouve que c'est vraiment très intéressant ce qui est en train de se passer, puisqu'on voit bien que ce qu'on a longtemps voulu cacher n'arrive plus à être caché, n'est plus caché. Et qu'est-ce qu'on fait avec cette réalité-là ? Comment on arbitre ? Comment on combine nos principes et nos vies ?
On entendait dans ce petit sujet de June Loper des militants de 269 Life Liberté Animale parler de camarades poules. Par ailleurs, ils peuvent aussi parler de guerre, ils peuvent parler de d'holocauste animal, ce qui peut choquer, évidemment. On peut l'entendre. Est-ce que penser camarades poules, ça veut dire qu'il faut penser les animaux comme nos égaux purs et simples?
Alors là, ça pose la question de c'est quoi l'égalité? L'égalité, ça n'a jamais été l'uniformité ou la similitude. Le principe d'égalité, c'est un principe de justice qui tient compte des différences de situation. Donc si on applique, et moi je trouve ça très intéressant de voir comment la question animale met à l'épreuve notre rapport au principe d'égalité et comment ça nous amène à nous interroger sur c'est quoi être égaux. Et est-ce que c'est avant tout prendre en compte les intérêts, une égalité de considération des intérêts, donc des intérêts différents. J'ai interviewé par exemple la porte-parole de PETA France qui me dit, en fait, pour discréditer ces mobilisations, on dit vous voulez donner le droit de vote aux poules, par exemple. L'enjeu, il n'est pas celui-là. Il est de prendre en compte leurs intérêts spécifiques. Moi, je trouve ça très intéressant, notre malaise avec toute analogie, toute comparaison avec les animaux non humains. Pourquoi ? Parce que dans l'histoire, si on voulait sortir des groupes d'individus de l'application des droits et donc de la communauté politique, on les animalisait. On l'a fait pour les femmes, on l'a fait pour les personnes racisées, on l'a fait pour les pauvres, on peut décliner.
Et on le fait encore, on sait à quel point certaines parties de la population sont considérées comme des nuisibles. On le voit dans des moments de guerre comme ceux qu'on traverse en ce moment, où il faut exterminer des animaux. Enfin,
c'est ça.
On entend encore ce...
Tout à fait. Et le ministre de la Défense israélien a qualifié les Palestiniens d'animaux, en disant ça permet de les traiter comme tels. Donc on voit bien que ça permet de sortir de la communauté des égaux, mais plus largement de la communauté de droits, même des droits fondamentaux. Donc, on comprend ce malaise-là. Parce que le challenge, le défi des féministes, des antiracistes, de ceux qui ont travaillé sur les personnes en situation de handicap, ça a été quoi ? Ça a été de désanimaliser, pour humaniser. Hein. Donc, là, sans qu'il y ait de déni sur cette histoire-là, moi je pense que là, il y a un moment essentiel qui est de dire on ne va pas se laisser paralyser par cette histoire et ne pas entendre que oui, il faut arriver à voir les animaux non humains comme des individus qui ont aussi une sensibilité qu'on a à prendre en compte. Mais c'est vrai qu'il y a un vrai tabou là-dessus. Et moi, je trouve intéressant parce que souvent, du coup, ça nous met mal à l'aise et on rit. Tu vois, vous voyez, camarade poule, on va se sentir mal à l'aise.
Ouais, mais vous parlez d'individus, là, typiquement. Est-ce à dire qu'il faudrait donner des droits au-delà de la sensibilité? On a aussi reconnu en 2021 un texte contre la maltraitance animale et on voit de plus en plus de condamnations. Et aujourd'hui, en fait, ces débats sont vraiment dans l'espace public avec la cruauté animale et toutes ces affaires qui ont pu être portées en justice avec des condamnations parfois très lourdes et légitimes. Pour autant, jusqu'où on va ? On a eu, il y a 2-3 ans, le Parlement de la Loire qui pensait des droits, en fait, pour les espèces vivants non humains. Est-ce qu'il faut aller jusque-là ? Vous parlez même d'aller plus loin et de penser une forme de convergence entre ces espaces de domination, donc ces personnes racisées, le sexisme, le validisme. Penser à un monde réellement égalitaire, ça veut dire penser toutes les minorités discriminées, y compris les animaux. Est-ce qu'on va pas trop loin ?
Est-ce qu'on va trop loin quand on questionne les conditions de possibilité de la justice ? Moi, je ne crois pas. Et c'est intéressant d'ailleurs parce que à travers ce qu'on a entendu et en particulier avec le grand recteur de la mosquée de Paris, qu'est-ce qu'on a vu ? Qu'est-ce qu'on a compris ? Qu'en fait, il y a quelque chose qui fait commun en termes d'ennemis communs ou d'éléments explicatifs de ces logiques d'appropriation, d'exploitation complètement aveugle aux souffrances qu'on peut provoquer chez les personnes racisées, chez les femmes, chez les animaux non humains, c'est la question de la croissance économique, de l'exploitation du néolibéralisme. Donc on voit qu'il y a un ennemi commun. Ce qui est plus délicat, c'est le bien commun. Comment est-ce qu'on peut arriver à vivre une société où, quelles que soient nos caractéristiques, alors dans l'espèce humaine, hein, la convergence des luttes, ou en tout cas l'alliance et la synergie, c'est cette idée de dire, quel que soit notre sexe, notre orientation sexuelle, notre couleur de peau, notre religion, notre situation de santé, voilà, on est tous des humains, donc il faut qu'on soit traités comme des égaux. Et c'est vrai que l'animalité nous pose une question, nous décale, nous bouscule, parce qu'on se dit, l'idée c'est de dire, et pourquoi on n'ouvrirait pas cette communauté à tous les animaux, même non humains. Et là, la question de comment on arbitre, mais qui est déjà une question qui existe entre féministes, antiracistes, il n'y a pas d'intérêt complètement uniforme, il y a bien des tensions entre tous ces groupes. Donc moi je trouve que c'est un défi magnifique de porter une société plus juste et donc plus heureuse, plus émancipée. Kim Lika, il travaille beaucoup là-dessus.
Will, alors justement, hein, vous le citez, hein, Will Kim Lika, qui est philosophe canadien, spécialiste des groupes minoritaires, il dit « les animalistes demeurent des orphelins de la gauche ».
Alors, tout à fait, des orphelins de la gauche, on l'a déjà un peu abordé, cette idée que dans les mouvements progressistes, l'enjeu, il a été de désanimaliser les groupes qui avaient été exclus du politique et du droit en les animalisant, en disant qu'ils étaient du côté de la nature et pas de la culture, qu'ils étaient incapables d'être des êtres de raison. Hein, ça fait écho aux justifications aussi bien de l'exclusion des femmes, de la citoyenneté active que des personnes racisées, tout à fait, de l'esclavage. Et donc, les mouvements progressistes, ils ont été fondés sur le fait de sauter la frontière, passer la frontière entre humanité et animalité. Et pas de la questionner, cette frontière. Hein, il y avait une contrainte qui était celle d'être désanimalisé pour être humanisé. Et là, l'enjeu, il est d'interroger la frontière même, la pertinence même de cette frontière.
Au même titre qu'on a interrogé celle de nature et culture, notamment avec Bruno Latour.
Tout à fait. Et donc, on voit bien que ça crée un inconfort, voire ça crée une peur de régression. Et y a un malaise à être comparé, ou à ce qu'on compare, comme vous avez employé le terme de zooholocauste, par exemple, comme si ça remettait en cause notre histoire et la reconnaissance d'horreurs qui ont été faites contre d'autres humains. Alors que Will Kim Lika, ce qu'il a de très intéressant, c'est qu'il dit, en fait, il y a des catégorisations de presque humains, donc ces groupes humains qui ont été animalisés, et puis les sous-humains, que sont les animaux non humains. Et en fait, au lieu de le voir comme une contradiction, il faut le voir comme une synergie, et il cite pas mal de recherches qui montrent que celles et ceux qui se posent la question de l'empathie vis-à-vis des sous-humains, donc des animaux non humains, sont aussi ceux qui se posent le plus de questions sur leur cohérence par rapport à l'application de la justice en fonction des caractéristiques entre humains. Donc, moi je trouve que c'est tout à fait stimulant, même si pas confortable, puisque ça remet en cause notre cartographie politique, de se poser la question de la cohérence d'une émancipation partagée.
Alors, dernière question, on entendait en début d'émission le ministre bruxellois écolo Bernard Clairefait. Il est titulaire du portefeuille de la condition animale. Vous avez justement signé une tribune qui appelait à la création d'un tel ministère en 2022. On voit que cette question, elle est aussi politique. Si on revient à l'abattage rituel, que ce soit Yannick Jadot pendant la campagne présidentielle ou Marine Le Pen, c'est-à-dire deux espaces politiques plutôt très, très opposés, demandent la fin de cet abattage rituel. Diriez-vous que cette question animale, elle est devenue un objet politique ou elle est instrumentalisée politiquement?
Les deux. Je pense qu'on peut tout à fait, mais c'est le cas pour plusieurs causes, on le voit aussi sur les questions féministes, où on va se servir du principe d'égalité femmes-hommes pour stigmatiser une certaine population. De la même manière, on va être dans cette logique-là de la part de l'extrême droite, alors qu'on va être dans une logique plus transformatrice et de cohérence en termes de justice, plutôt à la gauche de l'échiquier. Donc je pense qu'il faut en effet être vigilant pour pas instrumentaliser les causes les unes contre les autres, mais pour en faire vraiment un levier d'émancipation partagée.
Réjeanne Sénac, je rappelle votre libelle « Comme si nous étions des animaux ». C'est sorti au Seuil, c'est en librairie depuis hier et vraiment c'est à lire. Merci à vous d'avoir partagé ce samedi midi avec nous. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis. Vous pouvez réécouter cette émission et toutes les autres à l'envi sur le site de France Culture et sur l'application Radio France. Merci à Antoine Dulster qui l'a préparé, à June Loper qui l'a réalisé. À la technique, c'était Alexandre Gant.